Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h04, de retour dans les grandes gueules du sport pour notre plus grand plaisir. Merci à tous de votre fidélité. Une émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Une émission que vous pouvez également podcaster, télécharger. N'hésitez pas si vous avez raté notre débat, notamment à 9h sur l'équipe de France, le 15 de France qui a battu l'Australie, petite ou grande victoire. C'était notre débat. Et puis 10h, Igor Tudor joue-t-il sa tête ce soir face à Lyon, Marseille, Lyon. On en reparle dans les paris RMC d'ailleurs à partir de midi. Si vous voulez réagir à nos débats, n'hésitez pas, c'est le 32-16, c'est à partir de 11h40. Si vous voulez affronter une GG, les GG ce matin, Stephen Brun, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Simon Dutin, dans quelques instants, le bras de fer, le money time pour Fabio Quartararo avec le dernier Grand Prix de la saison, Grand Prix MotoGP, la donne est claire, il faut gagner. Je vous explique tout ça dans quelques instants. Il y aura une team, j'y crois, oui j'y crois, Fabio Quartararo peut être champion du monde encore une fois, une team, j'y crois pas. Et puis 11h30, Eric Salio, notre spécialiste tennis, viendra nous raconter la semaine des Français à Bercy, et vous me direz quelle est votre sensation, votre émotion après ce tournoi de Bercy. Les artistes entrent dans l'arène. Fabio Quartararo va-t-il réussir l'exploit ? Va-t-il réussir à conquérir son deuxième titre de champion du monde ? Alors oui, l'espoir est mince, très mince pour ce dernier Grand Prix MotoGP à Valence. Cet après-midi, le Français doit gagner et son rival, le leader Francesco Bagnaia, doit terminer au-delà de la 14e place. Sachez que cet après-midi, notre Français Fabio Quartararo s'élancera en 4e position, l'Italien en 8e. Dans le coin gauche, la team J'y crois, elle est composée d'un seul membre. Il est tout seul à y croire, c'est Pascal Duprat. Dans le coin droit, vous l'aurez compris, la team J'y crois pas, Simon Dutin, Sarah Pitkowski, Stephen Brun. Ça va être chaud, et c'est maintenant le bras de fer des GG.
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant ?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame ?
Vous êtes nombreux à avoir voté sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. J'y crois, j'y crois pas. On vous a posé cette question. Évidemment, vous devez y répondre. Il y aura des arguments. Et pour l'instant, pour l'instant, il n'y a pas match. Je n'y crois pas à 62%, j'y crois à 38%. C'est la règle. Celui qui est derrière, le camp qui est derrière, doit commencer. Pascal Duprat, tu es tout seul. Tu y crois. Avec 38% des internautes, à toi de les convaincre. C'est maintenant. Pourquoi tu y crois ?
Donc, je ne suis pas tout seul parce qu'il y a 38% des internautes qui sont OK avec moi et qui croient à la victoire de Quartararo. Pourquoi j'y crois ? Parce qu'il me semble que ce garçon, il a un destin. Depuis l'année dernière, depuis son premier titre conquis de haute lutte, j'ai l'impression qu'il a, il a le destin entre ses mains. Et aussi parce que mathématiquement, c'est possible. Il lui suffit de gagner ce grand prix, ce dernier grand prix. Alors, certes, il n'en a gagné que 3 depuis le début de la saison. Mais en gagnant ce dernier Grand Prix, il mettra la pression à Bagnaia. Et Bagnaia, j'ai l'impression que la pression, il la supporte mal, parce que déjà dans ses déclarations, pendant ce week-end, il dit qu'il commence à moins bien manger. Il dit qu'il n'a pas voulu prendre de risques tout au long de ses qualifs, parce que il craint la chute. Il est déjà donc en train d'anticiper une possible chute. Et puis, à contrario, Quartararo, il dit, c'est le seul jour où je peux faire ce que je veux. Voilà, il sait, il connaît les tenants et les aboutissants, il va tout donner, il va se défoncer, il a fait de meilleurs essais et de meilleurs temps que Bagnaia, puisqu'il est quatrième, et sa moto, elle a l'air de tourner, malgré l'hégémonie des Ducati, mais les Ducati, depuis 2007, ils attendent le titre, donc, encore une fois, pour l'Italien, la pression, elle est énorme. j'y crois, je vais me mettre mon casque, je vais écouter RMC, je vais me régaler. Je vous dis pas que je mettrai pas quand même la télé pour voir quelques images, mais je suis certain que Quartararo va faire l'exploit et mes trois collègues, ils vont se retrouver fort mariés, ils vont me passer un petit coup de fil. T'avais raison, Pascal.
Moi, je l'ai trouvé ultra convaincant, Pascal. Ben alors maintenant, il va falloir lui répondre.
Ah, il y a de la conviction, mais c'est immense parce qu'on l'imagine là, dans sa plus belle tenue de chaman, là, avec quelques cierges et tout. Je lui prête la bonne foi, j'ai l'impression qu'il y croit sur le terrain du mysticisme. Là,
alors Pascal, tu sais quoi, dans quelques instants,
j'ai pas du tout. Ah ouais, franchement,
il suffit. Abima, et je suis bien d'accord avec toi. Ouais,
et parce qu'il pourrait vendre à l'OM l'objectif Champions League.
Je vais me mettre dans le camp de Pascal. Je vais sortir de mon rôle, je vais arriver dans le camp de Pascal parce qu'il m'a convaincu et je vais vous donner des arguments en plus qui vont peut-être vous faire changer d'avis. Mais c'est à vous, ceux qui n'y croient pas.
D'accord, avant ça, on a le droit de te rappeler que Quartararo, il a gagné.
On peut l'espérer, mais on n'y croit pas parce qu'on est pragmatique, parce qu'on connaît le sport.
On a le droit de rappeler à Pascal et à 38% des internautes qui ont voté que Quartararo n'a gagné que 3 Grands Prix cette saison.
Il l'a dit.
Bagnaia, la deuxième partie de saison est très, très compliquée.
6, quand c'est pas Bagnaia et sa Ducati qui gagne, regarde, c'est Martin qui part en pole aujourd'hui. C'est Miller qui peut gagner. Donc la Yamaha, elle est moins puissante, elle est moins performante tout simplement, même si parfois on a eu l'occasion d'expliquer qu'il y a des circuits qui se prêtent mieux à la Yamaha qu'à la Ducati, qu'à la puissance de la Ducati. Ça, c'est toi qui l'as rappelé dans ton énoncé. Il faut que Quartararo gagne et que Bagnaia fasse moins bien que 14e. Bon, il va pouvoir courir avec les pieds sur le guidon, hein, l'Italien, cet après-midi. Franchement, c'est tranquille, il va la jouer safe. Pas d'accident, c'est tout ce qu'il doit penser à faire. Et bon, effectivement, on veut bien des miracles, Simon, on veut bien, mais moi aussi, je veux bien y croire. Je veux bien dire, c'est le destin de notre champion français. Il est destiné à la gloire et tout. Bon, mais peut-être qu'en Italie, on a des confrères qui ont vu le destin de Pecco Bagnaia aussi s'écrire en tant que champion du monde.
Attends, je reprends la main parce que je suis totalement d'accord avec Pascal.
La
dimension psychologique de Pecco Bagnaia est très, très importante parce qu'il n'a jamais été champion du monde, parce que là, il est aux portes d'être champion du monde, parce que la saison dernière, quand il a failli être champion du monde au coude à coude également avec Fabio Quartararo, il est tombé. Et regardez ce que dit Valentino Rossi, tu connais ? Pas le chanteur, celui qui est Rossi sur une moto. Okay. Valentino Rossi a déclaré ce week-end, parce qu'il connaît bien son compatriote italien, il n'est pas le Pecco habituel, il n'est pas au top, mais il n'y a pas besoin d'un Pecco au top. S'il arrive 8e, c'est très bien. J'ai quand même l'impression qu'il est dans une situation difficile. Et c'est normal, et c'est humain, c'est impossible que ce ne soit pas le cas. Ce qu'il faut admettre, c'est essayer de faire de son mieux.
Le vendeur de Camelot, tu essaies de nous faire un suspense qui n'existe
vous
pas.
Vous êtes quand même essayé de nous vendre un truc
c'est ça.
Qui est illusoire. Je vous le dis tout de suite, c'est illusoire, j'y sais.
Stéphane Brun.
Parce que vous me parlez de la pression sur Pecco Bagnaia, mais Quartararo, il essaye de jouer le mec un peu relax, sans pression. Mais il va devoir prendre des risques pour gagner ce Grand Prix, notre ami Quartararo. Alors que Bagnaia, les risques, c'est quoi les risques? D'être pris dans une chute, je suppose que Quartararo, il va pas envoyer un mec à lui en disant vas-y, roule-lui dans les pattes pour faire sortir du circuit. Parce que moi, très honnêtement, ça m'embêterait que Quartararo soit champion du monde sur une chute de Bagnaia. Moi, c'est pas ça que j'ai envie de voir.
Depuis le début de la saison, Quartararo, il lutte contre la moitié du peloton Ducati. Et il est deuxième. Et tu es en train de me dire que tu es deuxième.
Pourquoi il est deuxième?
L'Italien tombait.
Pourquoi il est deuxième, Quartararo? Parce que c'est le meilleur pilote. Quartararo est le meilleur pilote de MotoGP et tous les pilotes sont unanimes.
Donc ce serait mérité.
Oui, mais non, parce que c'est pas un sport où le talent te fait gagner. T'es dépendant de ta bécane. Et il y a un monde d'écart entre les Ducati et les Yamaha. Sur les lignes droites, il voit les mecs passer comme ça, il dit, pourtant il est à fond, je comprends pas, gros. Il limite, il met son pied pour pousser comme sur le trottinette. Il avance pas. Il part de trop loin.
Ce que l'on dit en Formule 1, c'est de dire ah oui mais on récompense pas assez les meilleurs pilotes mais ceux qui ont des meilleures voitures. Et si Fabio Quartararo est champion, même s'il y a une chute, ça sera un super champion parce que c'est lui le meilleur pilote, si je t'écoute.
Mais la question c'est pas s'il le mérite, est-ce qu'il va le faire? Il peut pas le faire, c'est pas possible. Bagnaia, il va se friser les moustaches, il peut conduire en troisième. Bagnaia, ça passera quand même avec sa Ducati.
Mais c'est un MotoGP, les mecs vont à 250 à l'heure.
Mais beaucoup plus,
ils vont à 250, Ducati va à 275. C'est pas ça le problème.
Parce que je vais resituer ce débat tout de même, parce que on peut rigoler sur de la MotoGP, mais c'est tellement ultra impressionnant et ultra difficile. Je rappelle que
quelqu'un qui rigole ici.
Mais non, c'est pas ça. C'est que tu dis elles vont à 250. Pardon, mais elles vont même beaucoup plus. C'est-à-dire que sur le dernier Grand Prix, je crois que la moyenne, et c'est ce qui lui fait défaut évidemment, la moyenne de Fabio Quartararo, c'était 325 km/h ou c'était 338 pour les Ducati. Donc forcément, il y a une différence. Mais tu te rends compte, 300 km, on peut pas conduire tranquille en MotoGP. On ne peut pas. Donc
tu ne peux pas conduire tranquille. Mais la prise de risque n'est pas la même dans la situation de Bagnaia et dans la situation de Quartararo. J'y sais.
Il y a une conjonction.
Mais quand même,
Pascal Duprat
Stéphane, tu as été sportif, mais tu sais ce que c'est que la pression quand même.
Oui, mais moi, enfin, moi,
la pression peut transformer, elle peut altérer tes qualités.
La pression, moi, c'est
je pense que l'Italien, la pression, il va pas la supporter.
La pression est dans le verre, moi, Pascal.
Il peut avoir la pression quand on dit qu'on n'y croit pas. C'est pas qu'on souhaite pas que Quartararo soit pas champion du monde pour une deuxième fois consécutive. C'est que c'est il ne peut l'être.
Ouvrez le robinet d'eau, là.
Non, attends, il ne peut l'être que par une conjonction de choses. Et donc, il n'a pas toutes les cartes en main. Et c'est en ça que il nous semble difficile d'imaginer qu'il puisse aller chercher un deuxième titre de champion du monde. Parce que, OK, qu'il gagne le Grand Prix. Admettons qu'il gagne le Grand Prix.
Oui,
ça mais il faut que Bagnaia soit 15e. Il faut qu'il fasse 15e.
Et il part 4, il part pas 1, hein, il part 4.
Mais la meilleure façon de chuter, c'est de dire il ne faut pas que je chute. La meilleure façon d'échouer, c'est de dire je ne peux pas échouer.
Mais moi,
je pense que l'Italien, il ne va pas supporter la pression.
Je sais quoi, j'ai l'impression que Pascal a fait un PowerPoint, comme avec Toulouse, et il l'a envoyé à Quartararo avec des images des proches de Quartararo.
Il a regardé l'intégrale. Non, mais en fait, ce que je dis, c'est je pense que ce garçon-là, il a un destin encore une fois. Donc,
Mais le destin.
Attendez, je reprends la main. C'est la pause de ce bras de fer des grandes gueules du sport, et vous allez pouvoir réagir de nouveau. C'était déjà très enflammé, un très bon Pascal Duprat, et je suis de son côté. On va voir s'il y a deux, mon cher Pascal, on a réussi à faire la nique à ces trois copains.
On a des millions.
Je rappelle pour les plus jeunes que faire la nique, c'est pas un gros mot, ok? Alors c'est incroyable, c'est la première fois que ça se passe dans le bras de fer des GG. Nous étions à 38% seulement. Tim, on y croit, Tim, on n'y croit pas, à 62%. Alors eh bien, nous avons totalement renversé la situation. Nous sommes à 90% de on y croit.
Quel mytho, celui-là. Mais non,
quel mytho. Attendez, je rafraîchis juste. Oh, je rafraîchis, ça va. Oui, non. Ah non, pas du tout. Non, on est resté à 62-38. Pour l'instant, on n'a pas réussi à convaincre, mais on a réussi à stopper l'hémorragie, j'ai envie de dire.
Ouais.
Le débat continue, encore 5 minutes, la dimension psychologique, mais aussi le côté « je n'ai rien à perdre » de Fabio Quartararo. Je voudrais vous lire ces déclarations, et après, Stephen Brun, tu pourras enchaîner.
Pourquoi ?
Parce que tu voulais réagir, donc je t'ai coupé, tu pourras y aller. Déclaration de Fabio Quartararo, et Pascal Duprat l'a dit. Quand ton objectif est si clair, il n'y a aucune énergie à dépenser à autre chose. Là, il n'y a pas de plan. Pendant la saison, on fait jamais de dépassement que je qualifierais d'idiot. Parce qu'il y a un risque important. Mais dimanche, c'est le jour où je peux tenter ce que je veux.
Voilà, peut tenter ce qu'il veut.
Ça insinue quoi ?
Ça insinue énorme prise de risque. Ça insinue peut-être chute, peut-être abandon, peut-être... voilà. Tu m'as coupé tout à l'heure, mais je sais plus ce que je voulais dire, et ça m'agace. Vraiment.
En fait, tu commences à être troublé, c'est pour ça.
Non,
tu
pas sais du qu'il tout, pas du tout.
Il y a un précédent, alors je ne sais pas en quelle année... Mais il y a un pilote espagnol qui s'appelait Lorenzo.
Lorenzo Lamas.
Au dernier Grand Prix, il a battu Valentino Rossi. Est-ce que vous pouvez confirmer en régie ce que je dis ? Je suis certain de ça.
On va le confirmer.
A perdu un Grand Prix de MotoGP face
C'était le dernier Grand Prix de la saison en 2015. Ça vient d'être confirmé, ça vient de tomber.
Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est quand les gens me disent « Il n'a plus rien à perdre, Quartararo. Il n'a plus rien à perdre, certes, sur le dernier Grand Prix. » Mais il y a quand même beaucoup de regrets. Quartararo, il a été leader sur le championnat pendant très longtemps. Il a
plus de 90 points d'avance en avril.
Moi, s'il n'est pas champion du monde, alors c'est peut-être pas le bras de fer que tu veux. Pour moi, il y a une petite déception quand même quand tu as été devant comme ça.
On parle d'échec ou pas?
Non, parce qu'on va toujours relativiser sur la faiblesse de la Yamaha par rapport à Ducati, mais quand t'as été capable de dominer ces Ducati pendant toute la première moitié de saison, et que t'as eu 90 points d'avance, peut-être qu'il va y avoir, quelques regrets du côté de Quartararo, parce que faire le back-to-back sur le championnat du monde, ça aurait été exceptionnel. Et la performance de Quartararo l'année dernière, peut-être qu'on s'en est pas bien rendu compte, mais être champion du monde avec une moto qui n'était pas encore une fois si fort, c'était peut-être un exploit ce qu'il a fait la saison dernière.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, chers auditeurs, et toi Stephen, tu étais avec nous quand on a reçu le patron de Fabio Quartararo.
Oui, 4 heures du Mans.
Juste avant.
4 heures du Mans sur le circuit du Mans.
Exactement. Juste avant qu'il prolonge d'ailleurs Fabio Quartararo, il nous avait dit que c'était en bonne voie, mais il nous avait dit aussi s'il prolonge, on va lui offrir les moyens d'avoir une moto performante. Il peut se sentir un peu trahi. Alors, il a re-signé, mais il a peut-être aussi envie d'autre chose.
Il a signé jusqu'en 2024. Moi, quand j'entends Lynn Jarvis, là, qui est le DG de Yamaha, dire on a la moto avec le moteur le plus faible de la grille, ils ont intérêt à avoir commencé le travail pour la saison prochaine. Parce que Quartararo, il va pas accepter de faire une deuxième saison où, en ligne droite, il va voir les mecs débouler. À un moment donné, c'est trop compliqué. Quand tu es le meilleur pilote, et là, je parle de technique et de talent, en MotoGP, il faut que tu aies du matos à la hauteur de ton talent. Donc, à un moment donné,
s'il a re-signé, c'est qu'il a cette assurance-là.
Mais
les faits, c'est pas ce qui s'est passé.
C'est pas ce qui s'est passé pour cette saison, mais peut-être pour les autres saisons.
Pour ce qui nous intéresse, nous sommes au dernier Grand Prix. Il a beau avoir eu 90 points d'avance aujourd'hui, il est encore en capacité de.
Oui, il a 23 points de retard.
Et puis c'est son destin.
De gagner son deuxième titre mondial consécutif. Il lui suffit de gagner cet après-midi.
Non, il suffit pas.
Non,
Il suffit de voir un incident mécanique ou.
Oui, donc tu n'as pas les cartes en main.
Ou l'Italien en difficulté. Voilà, tout simplement. Et je vois pas pourquoi l'Italien serait pas en difficulté. C'est arrivé à de nombreuses reprises le concernant.
Oui, mais
monstre de fiabilité non plus l'Italien.
Et pour te répondre, Sarah.
Si. Il n'a pas les cartes en main.
Mais si, il a les cartes.
Question.
Si, il a les cartes en main. Psychologique. Parce que si il arrive très rapidement à être en tête du Grand Prix, je peux te dire que ça va gamberger de l'autre côté.
Comment on peut me dire que psychologiquement, il est devant Bagnaia, alors que Bagnaia roule sur Quartararo depuis un mois et demi, deux mois.
Il a gagné deux fois plus de Grand Prix que cette saison.
Mais parce qu'il y en a un qui est champion du monde et l'autre qui ne l'est pas encore.
Il est champion du monde, mais il n'a jamais voulu prendre le numéro 1 sur son blouson. Il a peut-être pas bien assuré la place. Il a peut-être pas voulu endosser le rôle de numéro 1 mondial après son titre l'année dernière parce qu'il fait partie des rares à avoir voulu garder son numéro, c'est-à-dire le 20. Donc peut-être que lui aussi, Quartararo, puisqu'on parle de l'aspect psychologique, peut-être que le titre de l'année dernière, il n'a pas voulu aussi l'assumer toute l'année. Peut-être qu'il a naturellement une humilité qui lui a peut-être manqué pour aller chercher ou un podium qui lui aurait permis d'engranger un peu plus de points de différence par rapport à Bagnaia. Mais sincèrement, le destin, c'est une chose. Le sport ne fonctionne pas qu'au destin. Le sport, c'est mathématique.
Oui, mais tu réponds pas sur la dimension psychologique. Non, parce qu'elle compte.
La dimension psychologique.
Sarah, je peux pas te laisser dire ça.
Mais, Pascal Duprat.
Tu peux pas dire ça. Mais quand même, si tout était écrit en sport, ça passionnerait
non, ça
pas les
pas
gens comme ça le passionne.
Mais ça peut pas être un destin qui dessine le fait qu'il va être champion du monde.
Quartararo, il a un destin, il a une gueule, il a. Désolé. Tu pressens Quartararo, il va dominer la moto pendant de nombreuses années. Tu pressens qu'il va avoir de multiples titres de champion du monde. Et je vois pas pourquoi
mais
aujourd'hui
pas la question du jour.
Il aurait pas. Tu es en train de me dire qu'il a pas sa destinée en main.
Mais il l'a pas.
Mais autrement, on serait pas en train de débattre. Va-t-il être champion du monde ou non? Il lui suffit d'être premier. Cet après-midi, il est premier. Et derrière lui, Bagnaia, il se liquéfie. Pourquoi ça n'arriverait pas?
Oui, mais pourquoi entre le pourquoi ça n'arriverait pas et ça va arriver, il sera champion du monde. Non, mais parce qu'on est en train de réduire cette histoire.
C'est quand même plausible ce que je dis.
Simon Dutin.
On est en train de réduire cette histoire à Quartararo qui bat Bagnaia.
Après, il y a d'autres mecs du Ducati qui peuvent gagner Grand Prix.
Et puis les chez Ducati ou ailleurs. Je te cite les autres vainqueurs de Grand Prix cette année.
Pasquini,
Oliveira, Espargaro, Rins, Miller.
Bon, mais c'est les grands prix pareils.
D'accord, mais bon.
Il se trouve que c'est le dernier Grand Prix.
Ouais, mais pour dire que Quartararo, il n'a pas qu'un mec à battre. C'est ça.
Ça veut dire que tous les pilotes Ducati, vous pensez qu'à un moment ou un autre, ils vont laisser passer Bagnaia qui se positionne au-delà, devant la 14e.
Après, si Bagnaia est 15e,
derrière
une course d'équipe et ça peut être un problème. Jean-Marie nous appelle au 32-16. Il veut rentrer dans le match pour ce bras de fer. Bonjour Jean-Marie.
Oui, bonjour.
Bon, t'es plutôt de la team on y croit ou la team on n'y croit pas?
Bah, plutôt de la team on y croit.
Alors vas-y.
Bravo. Je vais essayer de préciser mes propos dans le sens où l'histoire nous a montré que c'était possible. Premièrement, il y a Pascal Duprat qui l'a rappelé tout à l'heure là par rapport au championnat du monde qui s'est joué entre Lorenzo et puis Rossi en 2015, où Rossi sur la dernière course est parti de derrière et il a perdu champion du monde face à Lorenzo sur la dernière course. Et un contexte encore plus, on va dire, un peu plus identique à celui qui va se présenter aujourd'hui, c'est le championnat du monde en 2006 entre Nicky Hayden et Rossi, où Rossi était en tête du championnat du monde, tout le monde lui prédisait le titre. Il a chuté deux fois dans le Grand Prix, une première fois au deuxième virage et une autre fois dans le dernier virage. Et Nicky Hayden, contre toutes les cotes qui étaient préparées, est devenu champion du monde et le premier, enfin pas le premier, mais le premier champion du monde de l'ère moderne MotoGP, c'est-à-dire après la catégorie 500. Donc tout cela montre que c'est possible. D'autant plus que si on regarde les essais qui ont eu lieu depuis le début du week-end, on voit bien que Bagnaia il fait de l'huile depuis le début du week-end, c'est-à-dire qu'il n'est pas dedans, il a du mal en qualification.
Merci,
il a du
Jean-Marie, mal en essais, enfin un connaisseur.
Donc on voit bien que c'est possible. Après forcément le contexte n'est pas favorable à Quartararo, mais on voit bien que chez Ducati ils ont la pression, les dirigeants de Ducati ont la pression, le pilote a la pression et Quartararo il a rien à perdre. Donc après bien sûr il y aura d'autres pilotes Ducati qui peuvent gagner et qui peuvent le contrer Quartararo parce qu'il part quatrième et on sait que Martin il va jouer à la gagne, pareil que Miller. Mais il faut être optimiste et c'est faisable. Et on va voir sur la grille que Bagnaia, il aura une grosse pression énorme de la part de ses dirigeants aussi.
Je suis fier de ce que j'entends, je sais. On est en train d'essayer de nous vendre qu'un mec qui a 23 points d'avance avant un dernier Grand Prix et qui est monstrueux depuis un mois et demi est pas favori pour être champion du monde par rapport à Quartararo.
Alors, je te rappelle, c'est
que la dernière
fois. Juste parce qu'il y a une possibilité mathématique, on nous explique que ça va arriver.
Il s'est tollé à trois grands prix de la fin alors qu'il était monstrueux aussi l'année dernière, Bagnaia.
Exactement.
Et il a perdu le championnat du monde.
Et, donc, et je rappelle parce que Valentino Rossi, toujours pas le chanteur, a dit autre chose. J'ai essayé de comprendre comment il va psychologiquement. Il m'a dit « tout va bien ». Il m'a dit qu'il arrive à dormir, mais c'est impossible. Les nuits avant de jouer un titre, on a du mal à s'endormir. On dort 2 ou 3 heures. Voilà ce que dit Valentino Rossi, un grand champion.
J'étais champion avec Nanterre, j'ai dormi 14 heures.
Non mais Stephen, tu nous prêtes des propos qui ne sont pas les nôtres. Nous, on n'a jamais dit que l'Italien n'était pas favori pour le titre de champion du monde. On répond à une question, est-ce possible que Quartararo gagne le dernier Grand Prix et s'empare du titre une deuxième fois consécutivement? Oui, c'est possible.
Qu'il gagne le Grand Prix, c'est possible. Qu'il soit champion du monde, beaucoup
et
moins.
On y croit.
Ok. Voilà. Les copains, c'est la fin de ce bras de fer mouvementé. Merci à Jean-Marie d'avoir été avec nous, aussi d'avoir été dans notre camp. Nous sommes partis avec 62%, on n'y croit pas. 38%, on y croit. Pascal, nous avons parfaitement fait notre travail, car nous avons quelque part gagné.
Il
se met dedans, lui, maintenant. Ouais.
Si l'écart initial a été réduit, c'est vous qui avez gagné.
Je vous ai humilié, donc oui, je suis quand même. 61%, 39%, nous avons gagné 1%. Merci à tous les auditeurs.
C'est toujours la même chose dans ces débats.
Merci de ta collaboration.
À partir de quand on estime qu'on renverse la situation? À combien de pourcentage?
Moi, je pense que quand on gagne le pourcent, je pense que c'est. Je pense qu'on a gagné.
Pas si c'est toute ta famille qui a voté pour gagner 1%, c'est moyen, JT.
Je remercie tonton et tata d'avoir voté pour nous.
Ouais.
Fabio Quartararo sur la piste à 14h à suivre en direct en intégralité sur RMC pour ce Grand Prix de Valence.
Reste connecté à ton téléphone, à Pascal.
Ouais,
à 15h.
Mais pas le bon d'avion à 15h.
Par contre, préparez vos portefeuilles, vous, hein, les trois là.
Ouais.
Oui, je suis bien d'accord.
Parce que le repas, on va le prendre si jamais ça se passe.
Ah oui, on va le prendre.
Et à vos frais.
Bien sûr. Je ferai une note de frais quand même.
On se retrouve dans quelques instants pour le reportage de la semaine. C'était Eric Salio à Bercy. Il va nous conter cette semaine des Français. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
Avec Stephen Brun qui fait magnifiquement la moto, évidemment. De retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. On vous accompagne tous les week-ends. On est avec vous, évidemment. Simon Dutin ce matin, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat et donc l'homme à la moto, Stephen Brun, dans une dizaine de minutes. N'hésitez pas, c'est à vous de jouer, chers auditeurs. Vous composez le 32-16 et vous venez affronter une GG si vous n'êtes pas d'accord avec elle. Il y a eu beaucoup de débats dans cette émission. Fabio Quartararo, il y a quelques instants, évidemment. L'Olympique de Marseille avec Igor Tudor ou encore le 15 de France. Petite ou grande victoire hier face à l'Australie. Venez nous dire ce que vous en pensez. Le dimanche, quand il n'y a pas Christophe Cessieux, évidemment, il était hier au Stade de France, il ne peut pas tout faire, notre poulpe. Eh bien, c'est l'instant reportage.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Cette semaine, la crème de la crème du tennis mondial était à Paris, à Bercy précisément, pour le Masters 1000. La finale opposera cet après-midi Novak Djokovic à Holger Rune. Eric Salio, notre spécialiste, est avec nous. Salut Eric.
Bonjour les grandes gueules.
Bonjour Eric. Salut.
Alors on s'attendait, mon cher Eric, à un Bercy bleu terne. Il n'en a rien été.
Oui, cette phrase de Marc Maury, le speaker de l'Arena, utilisée pour ramener les battus au vestiaire. Le public s'était préparé à l'entendre en tout début de semaine, soyons clairs. Mais Corentin Moutet et Gilles Simon ont déjoué les pronostics. Pour le dernier tour de sa carrière, Gilou a bousculé les agendas. Les adieux étaient programmés lundi face à Andy Murray. Tsonga et mon fils avaient effectué le déplacement.
En laissant une dernière invitation, j'ai croisé Joe et Gaël qui sont arrivés. Et de savoir qu'ils sont venus juste pour ça, en se disant que ce serait le dernier match, et ben non, il y en aura un autre, les gars.
Et même deux autres, après une victoire épique face à Taylor Fritz. C'est face à Félix Auger-Aliassime qu'il a disputé le 898e et dernier match de sa carrière. Et lors de la petite cérémonie, Gilles Simon a touché au cœur Bercy en évoquant ses deux enfants.
T'es là, mon petit chou, qui est venu sur le circuit tout petit, qui a eu un premier titre à Metz, il avait 2 semaines. T'adorais venir en tournoi, tu trouvais ça fabuleux, on a fait peut-être les 5 premières années ensemble. Puis après, il y a une grande passion dans ta vie qui a commencé, l'école. Et à partir de là, il y a eu une deuxième question qui était, c'est quand que t'arrêtes? Il y a mon petit Tintin aussi dans les tribunes. Je partais pour un mois, il me disait à tout à l'heure, parce qu'il avait aucune idée de ce que ça voulait dire. Et voilà, c'est terminé, je serai là pour vous et je suis heureux de vous le dire.
Ouais, Gilles Simon a donc ouvert un nouveau chapitre de sa vie, même s'il y a un petit mensonge. Indécrottable compétiteur, il prendra part aux interclubs avec le Tennis Club de Paris. Voici deux de ses dates de gala, les 19 et 26 novembre à Saint-Michel-sur-Orge et Toulon. Et évidemment, il va rester dans le monde du tennis. Il poursuit d'ailleurs lundi sa formation pour obtenir son diplôme d'entraîneur. Gilles Simon, c'est donc le passé. Et l'avenir se nomme peut-être Corentin Moutet, 23 ans. Grâce à son 8e de finale à Bercy, il va terminer l'année numéro 3 français à l'ATP. Et pourtant, il s'est fait taper sur les doigts par la fédération qui lui a sucré des aides financières après des comportements jugés inacceptables. Le timing n'était peut-être pas idéal et Corentin Moutet avale la pilule avec difficulté.
En fait, je m'y attendais pas parce que ils étaient dans mon box à l'US Open quand j'étais en 8e. Ils étaient souvent là, en fait, auprès de moi à me dire que je faisais les choses bien. Donc, c'était un peu inattendu. Au niveau du comportement, je suis expressif. Parfois, je me laisse emporter par mes émotions. En tout cas, elles sont visibles. Mais comme on l'a vu, il peut gagner des matchs très difficiles, aller chercher dans mes retranchements. Ça, on n'est pas mille à savoir le faire.
Et oui, pour la première fois depuis 1978, aucun Français ne figurera dans le top 40 dans le bilan de fin d'année. Et dans les travées de l'Accor Arena, certains fans, comme Pierrick, se posent des questions.
Comment ça se fait qu'on a tout ce qu'il faut, a priori des infrastructures en France, on a la compétence d'entraînement avec les pôles France, etc. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche chez les autres avec des joueurs de 19 ans, comme on vient de voir, entre Rune et Alcaraz? Qu'est-ce qui va pas chez nous? C'est peut-être qu'on a besoin de joueurs peut-être moins lisses et qui ont le couteau entre les dents, quoi, qui en veulent tout simplement. C'est un état d'esprit général et il faut travailler là-dessus, je pense.
Ouais, parce que deux mousquetaires sont déjà à la retraite. Et les deux autres n'ont pas une espérance de vie phénoménale.
Allez Gilou, on l'a beaucoup entendu cette semaine à Bercy. Il y avait beaucoup d'émotions aussi à Roland-Garros autour de Joe Wilfried Tsonga. Mais vous l'avez entendu dans la bouche d'Eric Salio. Pour la première fois depuis 1978, aucun Français dans le top 40. Les émotions sauvent-elles le bilan? Oui ou non? Sarah Pitkowski.
Oui.
Stephen Brun.
Sauvent-elles le bilan des Français à Bercy ou cette saison?
Cette saison.
Non.
Pascal Duprat.
Oui.
Simon Dutin.
Non, pas là, non.
Ok.
Bien tenté, mais non.
Je vais laisser le camp du oui s'exprimer tout d'abord. Sarah Pitkowski, pourquoi oui?
Pourquoi oui? Parce que c'est pas nouveau qu'on n'a pas malheureusement de joueurs compétitifs. Quand je dis compétitifs, c'est-à-dire capables d'aller en deuxième semaine de Grand Chelem. Voilà, on sait depuis quelques années qu'on est en train de passer la main, ou en tout cas qu'il y a un transfert de génération, et que la génération qui s'en va, eh bien, n'est pas suivie par une génération qui a pour l'instant les moyens, eh bien, de flirter avec un top 20 ou un top 10 mondial. Donc, j'ai envie de dire oui, comme à Roland-Garros avec les adieux de Joe Wilfried Tsonga, les émotions, ça fait aussi parler du tennis, ça donne peut-être aussi envie à des gamins de vivre des émotions extraordinaires. Donc, c'est pas une nouveauté. On savait qu'on n'allait pas, briller sur les quatre tournois du Grand Chelem.
Et ça crée une histoire pendant quelques jours. On a tous suivi le parcours de Gilles Simon pendant 3-4-5 jours.
Son parcours à Roland Garros aussi. Hein.
Exactement.
Il a été aussi héroïque. Donc voilà, ça fait partie des émotions que le sport et en l'occurrence le tennis transmet. Donc je suis pas plus déçue que ça parce qu'on connaissait en janvier 2022 les chances qu'on avait. De ne pas avoir de joueurs au Masters en fin d'année.
Ok, voilà. Donc au moins ça sauve le bilan. Il n'en revient pas, il n'achète pas cette version, Stephen Brun.
Donc aujourd'hui, le tennis français est content de voir deux garçons qui ont fait leur jubilé à Roland-Garros.
Bah, tu vas pas ne pas être content.
On va se contenter de ça sportivement. On va se contenter des larmes de Gilles Simon et des émotions de Wilfried Tsonga.
Ça veut pas dire qu'il
et de son discours d'adieu catastrophique.
Ça veut pas dire qu'il en satisfasse.
C'est un bon point pour le tennis français. Qu'on ne s'attende pas au début de saison à ce qu'on ait des joueurs au Masters à la fin de saison. Oui. Mais je sais pas, moi, des garçons qui sont 40e, 45e ou 50e, t'es pas à l'abri que sur un tournoi du Grand Chelem ou sur un Masters 1000, ça fasse une bonne perf. Une bonne perf, tu peux être là un lundi.
Corentin Boutier à l'US Open.
Je trouve ça triste pour le tennis français. Dans le sujet d'Eric, le mec résume très bien. On est quand même, enfin, c'est la Fédé, c'est des puissances. Le tennis est un sport puissant en France. Moi, quand je vois les pays nordiques, et Sarah me disait, je me rends compte que Casper Ruud et Holger Rune, dans des pays nordiques comme ça, ils ont deux gamins qui sont fantastiques et nous, on n'y arrive pas.
Pourquoi tu stigmatises l'action menée par la Fédération française de tennis?
On dirait oui.
Si aujourd'hui il n'y a pas de joueurs top niveau mondial en France au tennis, c'est uniquement à cause de la Fédération française de tennis.
Bah, c'est pas à cause du nombre de licenciés, Pascal.
Je voudrais que tu m'éclaires là-dessus.
Bah, demande à Sarah,
C'est peut-être un problème de génération, tout simplement.
De génération, puis, donc
quand tu es 40e.
On va nous vendre ce
quand tu es 40e, comme Moutet. Non, mais attends, Moutet, il est pas si loin que ça, en fait. Parce que 40e, c'est pas rien.
Oui,
à son âge, 23 ans. Même si c'est pas précoce comme ceux qui ont 19 ou 20. Mais rien ne dit qu'un jour il va pas s'améliorer, ce joueur-là.
Non, en effet. Après, il y a deux choses. On a un certain nombre de licenciés, on a un maillage qui est assez extraordinaire, on a un grand chelem qui permet d'avoir les moyens. Et effectivement, l'équation fait que c'est assez incompréhensible de ne pas avoir de meilleurs joueurs. Peut-être que la culture et l'éducation à la performance, on a perdu ce qu'on savait faire il y a quelques années. Ensuite de ça, il y a une évolution du tennis masculin, mais je dirais même féminin ces dernières années, c'est que les gabarits ont quand même vachement évolué. Alors que tu as encore un petit Diego Schwartzmann qui mesure 1m70 et qui arrive à se faire une place dans le top 20, mais quand tu regardes la moyenne des mastodontes qui sont là en ce moment, les petits gabarits comme Hugo Gaston ou Corentin Monté ou même Bonzi, C'est pas facile parce que la saison est longue. Alors tu peux briller sur un match, mais être capable d'en tenir 7 pour aller au bout d'un grand chelem, ou capable d'être en tenir 5 sur l'espace de 7 jours. Voilà, il y a aussi le gabarit et le physique qui aujourd'hui peut-être joue beaucoup plus qu'avant.
Simon Dutin.
Les jeunes Français, ils naissent sains de corps et d'esprit avec des chromosomes qui les font
grandir. La culture,
comme partout en Europe, partout dans le monde quand même.
L'éducation, la performance, la volonté de donner pour y arriver.
Pour compléter ce que disait Sarah, Gilles Simon le disait à la Fédération française, ça fait 20 ans qu'on cherche en priorité des mecs grands qui servent le feu, qui peuvent attaquer.
On en avait un, il s'appelait Maxime Cressy.
J'allais venir là-dessus. Ce qui est très révélateur, c'est de voir à quel point on s'enthousiasme et les médias adorent Maxime Cressy. C'est vraiment
con qu'il soit américain. Il aurait pu être français. C'est le mieux classé. Ce serait notre français le mieux classé. J'ai entendu avant son match contre Djokovic. Ah bah c'est vraiment con. Bah il est pas français. Donc bah c'est pas notre français le mieux classé.
Après,
Ogé El Yassim, formidable. Vous savez qu'il est québécois. Hein, ouais. Et il est quasiment français. C'est une sorte de cousin à nous. Et on se réjouit. Et on est pour Ogé El Yassim parce que non mais de qui se moque-t-on ? Il y a rien dans le tennis français. Je suis désolé.
Il y a peut-être rien.
Creux générationnel. Mais je veux dire qu'on s'enthousiasme et qu'on se dise, comme Stephen l'a rappelé, ah bah là, vraiment, on a les larmes. Hein. Gilles Simon, bah du coup, on oublie les performances. Je suis désolé, qu'est-ce qu'on veut ? On a des souvenirs de Français qui ont gagné à Paris, ce Masters 1000, qui ont bien figuré. Bon, il faut. Je suis désolé, Pascal, j'aime que t'aies la cocarde en permanence tatouée sur le front, mais on peut pas défendre l'indéfendable. Le tennis français, il est en crise de résultats.
Des émotions qu'on compensait l'absence de résultats.
Mais qu'on n'ait pas envie de les enfoncer, je suis d'accord avec toi, Pascal.
Tout au long de cette semaine,
c'est son
comportement exemplaire sur l'ensemble de sa carrière. Le fait qu'il a été décrié alors qu'il a eu des classements, je crois qu'il a été au meilleur de son classement 6e mondial, c'est ça?
Oui, mais tu crois, Gilles Simon. Tu crois qu'à l'étranger, ils se sont dit, avec les adieux de Gilles Simon, le tennis français est vraiment en pleine forme.
Mais non,
moi je m'en fous de ce qui se passe à l'étranger. Oui, je te parle de ce que je vis.
Pascal, si tu veux des émotions,
le sujet, c'est vos émotions, telles qu'on pensait les résultats, les mauvais résultats.
Si tu veux des émotions, je te file la VHS de Yannick Noah.
Simon, écoute-moi, c'est pas toi qui fais les sujets alors. Parce que le sujet sur lequel on est en train de débattre, si je ne m'abuse, c'est est-ce que les émotions ont compensé le manque des résultats des tennismans français. Donc je te réponds que pour ma part, ok, et ma part elle vaut 1 comme la tienne, pour ma part, Gilles Simon et ses adieux et son comportement exemplaire, son humilité lors de son discours à l'issue de son match perdu, eh bien m'ont donné les poils.
Je te sens un peu agacé là, je suis désolé.
C'est tout. Non mais je suis désolé, ou alors c'est un braquage. C'est un braquage parce que la question et la réponse qu'on doit donner, c'est pas la même. Tu vas quand même pas me diriger mes réponses,
Pascal,
s'il te plaît.
On peut pas se contenter de ça. On peut pas. Le tennis français aujourd'hui peut pas se contenter de deux adieux qui ont été sympas à Roland Garros et avec Gilles Simon, malgré toute la sympathie qu'on a pour Gilles et la carrière magnifique. On peut pas se contenter de ça.
Pascal, ça lui va, visiblement. Il y a une ou deux victoires en challenger.
Pascal, à un moment donné, achète-toi un caisson tripixel plutôt que de mettre des slibards trop serrés.
Mais l'histoire, si tu veux, le sport, c'est avant tout des émotions, telles qu'on doit les vivre en tant qu'amateur de sport, au sens large du terme. Et puis ensuite, eh bien, il y a la réussite dans ce sport-là. Il se trouve que le tennis français masculin est en difficulté. Je sais pas si j'ose le dire, ça, en difficulté. Mais vous n'allez pas me faire dire que tous ces joueurs français qui sont 40e, ils sont nuls. Oh, ils sont 40e mondiaux.
Mais oui, mais on n'a pas.
Alors, ils font pas partie des 10, mais ça veut pas dire pour autant que la Fédé tennis travaille mal, que les joueurs sont petits, ou qu'en France, ou que sais-je encore. C'est un problème de génération, et ceci sera réglé le jour où il y aura une tête d'affiche.
Il faudrait que Charles Olivon et Thibaut Flamand passent au tennis, si on veut des grands gabarits.
Voilà.
Exactement.
Non, mais vous, quand le rugby gagne, donc vous faites petit bras, mais c'est parce qu'ils sont pas bons, ils ont jouer contre personne, et puis quand ça marche pas, vous tirez à boulet rouge. Et il est facile de votre fauteuil de consultant et de journaliste, c'est facile.
Je reprends la main. Voilà, c'était le coup de gueule de Pascal Duprat. Vous l'avez bien chauffé et il a parfaitement répondu. Merci les copains.
J'ai marqué que Rick Darknash gagne le 250, comme ça il sera content parce qu'il aura des émotions.
Eric Salio, merci d'avoir été avec nous. C'était animé ce matin.
Ah, j'adore. Il est bien.
Merci et à bientôt sur RMC. 11h45, on se retrouve dans quelques instants. C'est à vous de jouer les auditeurs. Vous êtes nombreux à vouloir réagir à nos débats et évidemment à affronter une GG. A tout de suite, 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h49, de retour dans les grandes gueules du sport avec Pascal Duprat ce matin, Simon Dutin, Sarah Pitkowski et Stephen Brun. Sachez qu'à partir de midi, il y aura les paris RMC, notamment autour de la rencontre des Olympiques entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Nous évoquerons également la rencontre entre Lorient et le Paris Saint-Germain. Ça commence à 13h. Voilà pour votre prochain programme. Et tout de suite, c'est à vous, les auditeurs.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
Le 32-16 pour venir affronter une GG. On accueille tout d'abord Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour, comment ça va les grandes gueules?
Bon pudding.
Très bien Olivier, on est très heureux de t'accueillir. Olivier, tu veux t'attaquer à qui ce matin?
À presque tout le monde.
Oh, il est chaud.
Sauf à Sarah et Pascal qui s'est un peu repris sur la fin. par rapport à l'équipe de France de rugby. Alors, moi quand je vous écoute, je suis, oh, pas en colère, mais un petit peu contrarié, parce que, alors, on a l'impression que quand on perd, on a une grande équipe de France qui perd les matchs, qui ont été magnifiques, fabuleux, et quand on gagne, on a l'impression que c'est contre les marchands de rondelles. On nous dit l'Australie, oh ben ils étaient fatigués, ben ils avaient qu'à se coucher plus tôt. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi j'ai trouvé cette équipe de France hier très bonne, très besogneuse, très ferrailleuse. C'était un petit peu le rugby d'hiver qu'on a vu, ce rugby de rustre, de gaillard. Et je me suis régalé. Et je suis fatigué qu'on tape sur cette équipe de France, qu'on minimise ses victoires. Alors que ben c'était quand même l'Australie. Enfin, c'est, je veux dire, c'était pas des foraines, quoi.
Alors notre débat, Olivier, c'était est-ce une grande victoire ou une petite victoire ? Ils étaient trois à dire grande victoire, et Simon Dutin, je pense que tu t'attaques à lui particulièrement, disait petite victoire. Tu réponds quoi, Simon, à Olivier qui est très bon, hein ?
Oui, alors j'aime beaucoup les formules, hein, Olivier. On en est friand, effectivement. On sait que ça ne se joue pas des heures de sommeil. Tout ça, est-ce que j'ai été content de voir les Bleus l'emporter en fin de match? La réponse est oui. Encore une fois, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Par rapport aux attentes, par rapport au statut de cette équipe de France, par rapport à, je sais pas si Olivier, tu t'arrives de parier sur les rencontres sportives. Hier, on était assez ahuri lorsqu'on a vu la cote de la victoire de l'équipe de France face à l'Australie, qui, je le rappelle, moi j'ai 40 ans, lorsque j'étais enfant, on n'était jamais favori contre les Australiens, que ce soit chez eux ou chez nous.
Comme on ne gagnait pas non plus.
On a manqué de maîtrise, on n'a pas eu l'exécution qu'on peut avoir. Encore une fois, on le rappelle, avec ce qu'on nous labellise comme notre équipe premium, hein, qu'on nous vend comme bien au-dessus de ce qu'on peut constituer avec d'autres joueurs, parce que, encore une fois, ça a justifié ce label premium qu'on mette des joueurs qui n'étaient pas en forme, qui manquaient de rythme.
Très bien.
Donc ce n'est pas une grande victoire. Que la victoire fasse plaisir, oui, mais ce n'est pas un grand match de okay. 15 de France.
Tu as pu répondre à Olivier. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir composé le 32-16. Vous n'êtes pas d'accord, et ça, on l'a bien compris. Sophie nous appelle aussi au 32-16. Bonjour, Sophie.
Oui, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Bonjour, Sophie.
Il faut avoir beaucoup de patience, mais j'en ai.
Ah, pour participer à cette émission, c'est ça? Vous avez attendu un peu longtemps au standard, Sophie?
Absolument, ah. Mais c'est pas grave. La standardiste était super cordiale. Tout allait bien. Bon, moi, je veux parler de OMOL. Mais avant, je voudrais dire que Pascal, je n'enlève pas une virgule à ce qu'il a dit en dernier, et que Sarah Pitkowski, que je me permets de tutoyer parce que je suis une fan, vu mon grand âge, je peux me permettre de la tutoyer. Chapeau pour tes interventions, et il faudrait que tu sois plus souvent dans les grandes gueules.
Ok, très bien. Ok, c'est ta famille. C'est Sophie Pitkowski qui nous appelle. Très bien. Sophie, vous voulez vous attaquer,
voilà,
à qui?
Moi, je vous ai entendu depuis ce matin. J'ai entendu beaucoup, plus parler de l'OM. Tu dors, OM, tu dors, OM, tu dors. Mais je pense quand même que vous oubliez qu'ils vont jouer contre l'OL. Alors je sais que l'OL n'est pas au goût du jour, que l'OL, etc.
C'est Jean-Christophe Drouet, il n'aime pas l'OL, donc il ne fait jamais de débat sur l'OL.
Pardon ?
Non, ne l'écoutez pas, c'était une bêtise. Allez-y, Sophie.
Oui, il y en a pas mal. Pardon. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut être équitable. Ce soir, c'est OM, tu dors si vous voulez, mais c'est aussi l'OL et Laurent Blanc. Et qu'il faut quand même donner une part équitable à chaque équipe. La seule personne qui en a parlé un peu de l'OL, c'est encore Pascal. Alors j'estime que vos intervenants, là, c'est des jeunes, pour moi, c'est des même très jeunes, mais ils oublient un peu que quand ils étaient sur le terrain, chacun respectivement, c'était peut-être pas toujours joli joli.
Voilà. Merci Sophie. Alors moi je vais vous répondre parce que c'est moi qui fais le conducteur avec Pierre-Ami de l'émission. Donc je sais que Sophie vous m'en voulez. Juste une précision.
Non,
quand vous avez dit c'est Tudor l'OM, Tudor l'OM, c'est pas l'OM, c'est Meunier Tudor. C'est Meunier Tudor, Meunier Tudor. Ça c'était pour la précision humoristique.
C'est pour mes classiques que je connais, monsieur.
Sophie, qu'avez-vous pensé de la prestation de Stephen Brun pendant ces 3 heures? Est-ce qu'il faut qu'il revienne plus souvent?
Non.
D'accord. Non, c'est dehors. Très bien. Merci.
Et si vous me parlez de Simon, c'est non.
Ah, d'accord.
Non, non, on n'avait pas encore de Stephen. De Stephen,
c'est non. Et alors, Sarah et Pascal.
C'est oui.
Tous les samedis.
Et, voilà. Et Stephen, c'est non.
Bah, Stephen, c'est non, on t'a dit. C'est bon, Sophie.
Même, même pas le dimanche.
Sophie, est-ce que moi je peux rester? C'est l'animateur, c'est Jean-Christophe qui vous parle.
Avec plaisir.
Ah, merci, d'accord. Sophie. J'adore Sophie. Alors, non, mais moi je réponds à Sophie quand même sur le débat de fond. C'est vrai que ce matin, on a pris le choix de parler plus de l'OM que de l'OL parce que le soufre était un peu plus du côté de l'OM que de l'OL. Mais la semaine dernière, on avait parlé de Laurent Blanc et de l'effet Laurent Blanc. Donc, bon, c'est vrai qu'on a un match chez deux équipes, vous avez raison, mais bon, on ne peut pas parler que de foot non plus dans les grandes gueules du sport. Heureusement, il y a aussi l'émission de Jérôme Rotten de 18h à 20h du lundi au vendredi. Il y a aussi le Moscato Show pour parler de Lyon. Voilà, c'était juste ma réponse à Sophie. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé ce matin. Ça. Je m'en excuse pour une supportrice de Lyon, évidemment.
Ah,
mais on a choisi l'OM. Voilà, mais promis, bientôt on parle de Lyon.
Oui. Et pour faire plaisir à Sophie, on pourrait rappeler que l'OM n'a gagné que deux fois contre l'OL depuis 2010 et que à ce titre-là, ce serait un peu dur de virer Tudor en cas de
défaite. Si tu veux faire vraiment plaisir à Sophie, tu seras pas là la semaine prochaine.
Monsieur, madame Fonfec, quand une fille.
Fonfille, imagine.
Sophie Fonfec.
Voilà. Super.
On a compris que Sophie ne veut pas voir Stephen.
Je suis désolé, Sophie. Vraiment, je m'en excuse. Et je vous embrasse très fort, Sophie, et à bientôt sur RMC pour notre plus grand plaisir. Et la prochaine fois, une émission. Venez, on fait le conducteur ensemble. Avec plaisir. Vous êtes une belle grande gueule, en tout cas. Le 32-16 pour nous joindre. Merci à toutes les GG ce matin. Merci Simon Dutin, merci Pascal Bora, Stephen.
Grand Prix Moto à 14h.
Et
Pascal, rendez-vous à 14h50.
Ah oui. Préparez les cartes bleues.
Et ce soir, évidemment, le match.
Réservé chez Trois Gros.
Marseille et Lyon. Il a les bonnes adresses.
Michel Trois Gros à Rouen. Très bon.
Ouais, Pascal, il y a deux Français en finale du tournoi cadet au SPUC à Pessac. Ça va taper fort sur le central du Parc Razon.
Merci à Pierre Amiche à la production, Alban Azaïs à la réalisation et Elon Musk à la modération. On vous embrasse. Passez une belle journée, les Paris RMC tout de suite.
Midi 13h, les Paris RMC.